Annie Baudet, la mère, Yann Baudet, le fils, François Baudet, le père, assassiné. Qui a fomenté l'assassinat ? La mère qui aurait instrumentalisé son fils ? Le fils qui voulait se venger d'une enfance meurtrie ? Cette affaire se déroule dans une drôle de famille. Des brocanteurs de Nice qui courent les foires et les marchés dans tout l'Hexagone et même à l'étranger. Dans cette famille, on s'aime et on se déteste. Dans cette famille, les coups pleuvent à tout bout de champ, mais on s'écrit des lettres d'amour enflammées. Dans cette famille, il aura fallu le courage de la petite dernière, Rosaine, qui va dénoncer son frère et sa mère juste pour connaître la vérité. Un matin de décembre, elle écrit cette lettre au procureur de la République de Nice. « Monsieur le procureur, je vous écris afin de solliciter votre aide. Mon père, François Baudet, né le 4 juin 1935, a disparu. »
Rosaine a 16 ans quand elle écrit cette lettre au procureur de Nice. Une lettre désespérée. Son père, François Baudet, n'a pas donné signe de vie depuis 3 ans. Depuis la nuit du 13 au 14 février 1998, où Rosaine l'a vu pour la dernière fois. À l'époque, sa famille passait sa vie sur les routes, de foire en foire où ses parents travaillaient comme brocanteurs. Ce soir-là, François, Annie, leur fils Yann et Rosaine rentraient à Nice où ils disposaient d'un entrepôt. En chemin, ils ont décidé de faire étape dans un motel de Nîmes. Après un repas rapide au restaurant de l'hôtel, la famille a rejoint une chambre familiale. Rosaine tombait de sommeil. Son dernier souvenir, son père, assis sur le lit voisin.
Mon père, lui, on était très joueur de cartes, on va dire. Donc, il triait un jeu de cartes au départ pour qu'on puisse jouer ensemble le lendemain à ma demande. Et c'est vrai que c'est une des dernières images de lui qui me reste en train de trier son jeu de cartes.
Rosaine s'endort. Mais à 5 heures du matin, sa mère la réveille brusquement.
Le premier réflexe que j'ai au réveil quand ma mère me secoue pour me réveiller, c'est de me tourner, puisque j'étais juste à côté de mon père à la base, et de me retourner vers lui, de le chercher. Et quand je le vois pas, le lit est complètement défait, il n'y a plus rien. Je demande où il est passé, et là on m'apprend qu'il aurait fait un malaise durant la nuit, que les pompiers étaient venus, qu'ils l'avaient emporté.
On dit à Rosaine que son père a fait une crise cardiaque et qu'il a été hospitalisé à Nîmes. La mère de Rosaine dit qu'elle n'en sait pas plus.
Ma première réaction, c'est bon, bah d'accord, on va aller le voir à l'hôpital. Et en fait, elle me dit, on peut pas, il est en réanimation, c'est interdit aux enfants. Et là, on fait, non, on retourne sur Nice. Ah bon ? Voilà, c'est précipité, on met tout à l'arrière et papa, on ne sait pas.
La mère tient à reprendre la route tout de suite, sans son mari. Direction Nice, où Annie et son fils déposent Rosaine dans un hôtel face à l'aéroport. L'adolescente y reste 3 jours, livrée à elle-même.
Rosaine, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Destination Nice, à peine arrivée à Nice, votre mère vous dépose à l'hôtel, toute seule. Elle vous laisse là, à 14 ans, seule. Pourquoi ?
À la base, déjà, on n'a plus aucun pied-à-terre sur Nice. Donc on n'a aucun lieu d'habitation, très peu de connaissances qui pourraient nous recevoir. Et ma mère était très coutumière quand elle partait de la maison de me laisser dans un hôtel. Donc c'était comme ça depuis que j'avais mes plus vieux souvenirs. Quand on partait de la maison, elle me mettait dans un hôtel et je la voyais le soir. Elle partait, elle revenait. C'était assez coutumier, on va dire.
Mais là, elle vous laisse 3-4 jours seule. Et ça, c'est habituel.
Oui.
Étrange.
C'était pas forcément le modèle de famille idéal, mais c'était le cadre dans lequel j'ai été élevée.
Que font votre frère et votre mère pendant ce temps-là, vous le savez ?
Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont partis... ils étaient allés dans un local pour vider le camion. Il fallait vider le camion des foires. Ça, donc, normal, hein, comme toujours. Après des journées qu'elle faisait, je n'avais aucune information, ce qui était aussi, entre guillemets, assez habituel dans ces cas-là quand elle me laissait dans l'hôtel.
Vous continuez de lui demander des nouvelles de votre père, qui est censé être à l'hôpital à Nîmes?
J'en demandais quand même assez régulièrement, mais toujours, j'ai appelé l'hôpital, il est toujours dans le coma. Rien de... Ou alors, pas de réponse.
Faut pas s'inquiéter.
Voilà. Rien.
Au bout de 3 jours, Rosaine est renvoyée en Bretagne, à Cancale où elle est scolarisée et vit dans une famille d'accueil pendant que ses parents sillonnent les routes du sud de la France et de l'Italie. C'est donc au téléphone qu'elle tente désespérément d'arracher à sa mère quelques nouvelles de son père. Comment va-t-il ? Elle veut le voir. Sa mère lui dit que finalement, François Baudet n'a jamais fait de crise cardiaque. Il souffre maintenant d'une tumeur au cerveau. Il est paralysé, il ne peut pas parler à sa fille. Inutile d'insister. Mais Rosaine a de la suite dans les idées. Elle décide de mener l'enquête seule, depuis une cabine téléphonique.
Quand j'ai contacté l'hôpital de Nîmes, on m'a répondu qu'aucun François Baudet n'était là. Et j'ai continué sur tous les hôpitaux de la région, quoi, mais je suis vraiment allée très large, très très large. Et comme je l'ai rappelé, je lui ai fait « Écoute, il y a un souci, il n'a pas été hospitalisé. C'est impossible, je les ai contactés ni pour une crise cardiaque, ni pour une tumeur, ni pour une opération. Il n'est pas invalide, il n'est pas dans un coma, il n'est pas bloqué, il n'y a pas de kiné, il n'y a rien. »
Sandrine, la grande sœur de Rosaine, elle aussi n'a plus de nouvelles de son père. Elle commence à s'inquiéter. Elle vit à Saint-Malo et appelle sa mère. Mais à elle, Annie ne parle curieusement ni de crise cardiaque, ni de tumeur au cerveau, mais d'une fugue amoureuse.
Ma mère m'annonce que mon père est parti avec une autre femme, 20 ans plus jeune que lui. J'étais dans ma chambre, je me suis assise sur mon lit et je lui ai dit, mais décidément, vous m'aurez tout fait. Mon père, qui part avec une femme plus jeune que lui, bon, ça tenait pas vraiment la route, quoi, parce que mon père n'était pas un homme qui pouvait séduire toutes les femmes qu'il souhaitait. Et surtout, ce qui m'a surprise, moi, c'est de ne pas avoir de nouvelles.
Car même s'il était à l'étranger, son père l'appellerait, lui donnerait des nouvelles. 3 mois passent, et les deux sœurs finissent par mettre leur inquiétude en commun.
Quand on en a parlé toutes les deux, donc je l'ai écouté, et puis là, je lui ai dit que je tombais des nues, parce que moi, j'avais une version totalement différente. Et quand je lui ai dit que moi, je savais qu'il était parti avec une femme 20 ans plus jeune que lui, on a réalisé toutes les deux. On a réalisé que là, qu'il y avait un problème, qu'il était certainement arrivé quelque chose à mon père. Parce que pourquoi avoir deux versions totalement différentes ?
Rosaine, votre mère a dit à votre sœur que votre père était parti avec une jeunette. Votre sœur vous le répète, évidemment. Vous étiez au courant, vous, de quelque chose comme ça ?
Ah non, pas du tout. Quand ma sœur me l'annonce, c'est un peu surprise. Je fais, écoute, ça va être difficile. Moi, il est censé être à l'hôpital avec une tumeur, une crise cardiaque. Donc, le départ est un peu surprenant.
Vous appelez votre mère ?
J'appelle ma mère qui, à ce moment-là, donc, me dit, écoute, quand je viens en juillet, je t'expliquerai.
Mais elle vous confirme cette histoire de petite jeune ?
Au mois de juillet, oui.
C'est déjà arrivé que votre père disparaisse comme ça, longtemps, sans donner de nouvelles ?
Ah non, jamais. C'est ça qui, justement, est assez surprenant. Il n'a jamais pu vivre un seul moment sans ma mère. C'était l'amour de sa vie, ses enfants, l'idée même d'être sans, c'était insupportable pour lui.
Donc votre père, étant éventuellement parti avec une jeunette, aurait au moins téléphoné pour prendre des nouvelles et vous aurait appelé ?
Oui, oui, parce qu'il y a quelque chose qui était très important pour mon père, c'était les anniversaires.
Et il vous appelle pour votre anniversaire ?
Rien. On attendait justement avec ma sœur, on attendait impatiemment ces deux dates-là, parce qu'on savait que s'il était vraiment en vie, il nous appellerait.
Les deux sœurs, la Rosaine et Sandrine, on comprend bien que vous êtes très proches, donc vous échangez beaucoup sur vos inquiétudes. Votre frère, vous l'appelez pour lui dire que vous êtes inquiète, qu'il y a quelque chose qui ne va pas ?
Alors, mon frère était très difficilement joignable à cette époque-là. Très, très peu, même quasiment injoignable, enfin, en tout cas pour moi. Donc, très peu de contact.
À la disparition inquiétante du père, vient s'ajouter en janvier 1999 l'arrestation du fils, Yann. Yann a 24 ans, il est arrêté à Nice car la police le soupçonne d'être mêlé à un assassinat qui remonte à 1992, quand Yann avait 17 ans.
À l'époque, Yann vivait sur la Côte d'Azur où ses parents venaient de s'installer. Et il était tombé dans la délinquance. Ses parents ne s'occupaient pas de lui, il vivait de petites combines, dormait sur la plage ou dans des squats.
Il a goûté pratiquement toutes les drogues depuis l'âge de 14 ans. Pendant toute cette période de délinquance, il est livré à lui-même, pratiquement. Officiellement, il est domicilié chez ses parents qui, eux, tantôt vivent en caravane dans un camping de Villeneuve-Loubet, par exemple, tantôt en appartement. Mais comme il est souvent fugueur, d'une part, et plus d'une fois, le père l'a jeté dehors parce qu'il commettait des délits.
Dans la rue, Yann s'est fait des amis. Fabrice et Valérie, deux jumeaux toxicomanes comme lui. Leur mère, Geneviève Montillé, l'a pris sous son aile. Plusieurs fois, elle lui a offert le gîte et le couvert chez elle, à Antibes. Yann s'est confié à elle. Il lui a raconté son enfance, son père qui le battait. Geneviève Montillé lui a dit qu'elle connaissait le même sort. Elle a prétendu que son compagnon, Éric Devrient, l'a batté. Et elle lui a proposé un marché. Éliminer Éric Devrient contre une belle récompense.
Elle arrive à lui expliquer que s'il réussit le coup qu'elle lui propose, c'est-à-dire renverser et tuer quelqu'un, il va gagner 500 000 francs à l'époque, ce qui est énorme pour lui, c'est une somme considérable. Et donc il accepte d'être le bras qui doit tuer Éric Devrient pour de l'argent.
Alors le 1er novembre 1992, Yann Baudet vole une voiture et vers 19h sur une route du Cap d'Antibes, il provoque un accident avec Éric Devrient qui circule à vélo. Le compagnon de Geneviève Montillé est laissé pour mort. Yann Baudet a rempli sa mission.
Exécuter un contrat à 17 ans, ce n'est pas courant. Certaines autres personnes à qui a été proposé ce contrat n'ont pas accepté. Lui, il accepte.
Le problème, c'est qu'Éric Devrient n'est pas mort. Il est dans le coma. Mais Yann refuse d'achever le travail. C'est Geneviève Montillé elle-même qui s'en charge, chez elle, 2 mois plus tard. Yann, lui, quitte Antibes pour se mettre au vert.
Entre 1993 et 1999, Yann Baudet tente de se faire oublier. Il fait son service militaire, il part en mission au Liban. Quand il revient, il se lance à son tour dans la brocante aux côtés de ses parents à Nice. Mais la justice finit par le rattraper, car entre-temps, l'enquête sur la mort d'Éric Devrient a bien avancé. Et 7 ans après les faits, l'affaire a fini par éclater. Geneviève Montillé, ses deux fils et Yann sont arrêtés.
Yann est entendu par les policiers de la PJ de Nice.
Yann Baudet, dès le départ, il nous apparaît comme quelqu'un d'intelligent, de réfléchi, mais aussi d'écorché vif. C'est quelqu'un qui est très impulsif, écorché vif. C'est vraiment l'une des caractéristiques de sa personnalité.
Les policiers veulent comprendre comment ce garçon de 17 ans en est arrivé là. Il interroge sur sa famille, sa mère, son père. Yann leur explique qu'il y a 1 an, François Baudet a plié bagage. Il a abandonné toute la famille pour partir à l'étranger avec une femme plus jeune.
Il pense qu'il est en Russie, mais bon, lui, ça ne l'intéresse plus. Pour lui, son père, il a eu des relations très conflictuelles avec lui depuis sa plus tendre enfance, donc ça ne l'intéresse plus. Il ne veut même pas savoir où il est.
Les policiers s'en tiennent là. Cette histoire de marivolage ne les intéresse pas. D'ailleurs, personne ne s'est plaint de la disparition de François Baudet. Ce qui les intéresse, c'est l'affaire Montillé et l'assassinat d'Éric Devrient.
Rosen, votre frère a donc été arrêté. C'est possible, ça, à ce moment-là, que votre frère ait fait ça? Ça vous paraît plausible?
Faut remettre quand même dans le contexte où c'était une famille. À l'époque de mon frère et de ma sœur, principalement, il y avait beaucoup de violence. J'ai vu mon frère être jeté à la rue régulièrement. Il a eu beaucoup de problèmes d'alcool, de drogue. Et je veux dire, quand vous avez 17 ans, que vous êtes jeté à la rue, vous savez pas quoi manger, quelqu'un vous tend la main, vous vous sautez dessus, quoi. Donc, ça choque, mais c'est... Quand on voit comment on peut tourner, ça ne me surprend pas non plus.
Donc vous imaginez que Yann ait pu être l'auteur de cette tentative de meurtre. Et sincèrement, à ce moment-là, est-ce que vous pensez qu'il a pu tuer votre père. Ce sont des doutes ou vous commencez à avoir des éléments de preuve?
Au départ, c'est que des suppositions. Après, au niveau des preuves, je tombe en fait sur les papiers d'identité de mon père. Dans le sac à main de ma mère, elle avait un sac à main qu'elle avait gardé. Je suis très curieuse et j'ai fouillé dans le sac à main de ma mère pour voir qu'est-ce qu'elle y mettait dedans. Et je suis tombée sur le passeport, la carte d'identité, le permis de conduire, le permis de travail, le permis de séjour en Italie, tous les documents nécessaires si on veut circuler ou faire quoi que ce soit. Il ne pouvait plus exposer sans ses papiers, il ne pouvait plus conduire, il ne pouvait plus traverser la frontière, il ne pouvait rien faire. Donc quelqu'un qui part avec une jeunette prend au moins ses papiers d'identité.
À partir de ce moment-là, vous considérez que votre père est mort?
Je sais au fond de moi qu'il est mort, mais j'espère en permanence me tromper.
Rosen et Sandrine en sont maintenant persuadées. Leur mère leur cache la vérité. Il est arrivé quelque chose de grave à leur père. Et Yann est dans le coup. Sandrine finit par faire craquer sa mère au téléphone.
L'aveu qu'elle me fait, ça reste très flou en fait. C'est oui, c'est ce que tu penses. Parce que moi je lui ai dit, je redoute le pire, je m'attends au pire. Et elle m'a juste dit, c'est ce que tu penses, c'est une dispute entre ton frère et ton père qui a mal tourné. Et c'est tout. J'étais complètement perdue quoi. Et c'est vrai qu'après on n'en a plus jamais reparlé.
Une dispute entre le père et le fils. Quand Rosen l'apprend, elle ne peut pas croire à un accident. Or, quelques mois plus tard, il se trouve que Rosen a rendez-vous avec sa mère chez la juge des enfants au sujet de son placement. Et Rosen profite d'un instant en tête-à-tête avec la juge pour lui confier ses craintes.
Elle va dire tout de go à ce magistrat, voilà, moi je pense que ma mère est pour quelque chose avec mon frère dans la disparition de mon père. On va faire ensuite rentrer Madame Annie Jacquet et on a une attitude qui est énorme, fabuleuse, de Madame Annie Jacquet qui va être courroucée, outrée dans sa chair de mère en disant mais ma fille est une affabulatrice. Elle raconte n'importe quoi. D'ailleurs, la preuve, il y a 15 jours, j'ai des amis qui étaient sur une foire à Paris et qui ont vu mon mari. Donc, ma fille, bien évidemment, Rosen, dit n'importe quoi.
Rosen ne sait plus quoi faire. Devant la juge, sa mère nie, alors qu'elle a avoué quelques mois plus tôt à ses filles que leur père est mort. Comment le prouver? Rosen veut connaître la vérité. Elle veut savoir ce qui est arrivé à son père, 2 ans plus tôt, dans la nuit du 13 février 1998, au motel de Nîmes. Et pourquoi sa mère nie et ment comme ça? Les mois passent, et un jour, Rosen se décide. Elle va tout raconter à la police. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Et sa sœur n'ose pas.
Là, c'était un vrai dilemme, ouais. Ça vraiment, j'ai envie de dire, c'était le... Ça a été l'enfer, parce qu'effectivement, dénoncer ma mère, je n'ai pas pu, j'ai pas eu le courage. Moi, j'ai eu un tiraillement pendant des mois, des années. Rosen l'a fait, voilà.
Le 4 décembre 2000, près de 3 ans après la disparition de son père, Rosen pousse la porte du commissariat d'Auvard, à Nice. Elle n'ose pas porter plainte, mais fait une RIF, une recherche dans l'intérêt des familles. Une procédure qui a très peu de chances de déboucher sur une enquête. Avant de la laisser repartir, le policier lui conseille d'écrire au procureur, de lui raconter tout ce qu'elle sait sur la disparition de son père. Le soir même, Rosen adresse une première lettre un peu hésitante au magistrat.
C'est une lettre d'enfant, adressée à un haut magistrat, où elle fait part tout simplement de la disparition de son père, elle. Mais elle ne va pas en quelque sorte accuser quiconque. Et je pense qu'elle a une certaine pudeur, parce que quand même, c'est la petite cellule familiale qu'elle est susceptible de faire imploser, ou alors une crainte. Hein. Et si je me trompais?
La première lettre reste sans réponse. Alors Rosen décide de frapper plus fort. Elle écrit deux autres lettres au procureur. Plus longues. Et plus explicites. Elle insiste sur l'attitude de sa mère et de son frère cette nuit-là. Elle raconte les mensonges sur l'état de santé de son père. Elle parle de ce frère, déjà mêlé à une affaire criminelle. Cette fois-ci, Rosen accuse clairement sa mère et son frère d'avoir tué son père.
Rosen, je voudrais savoir dans quel état d'esprit vous êtes au moment où vous écrivez ces lettres pour dénoncer à la justice et votre mère et votre frère.
Je suis dans un très mauvais état. Il faut dire que ça fait quand même plus d'un an que je fais des crises d'insomnie. Je ne dors plus. Je fais énormément de cauchemars. Et j'essaye de trouver une solution acceptable dans ce qui est à faire ou à ne pas faire à ce moment-là. Parce que c'est quand même dénoncer sa mère et son frère. Ça, c'est quelque chose qui est très, très dur en sachant que si j'ai raison, je les envoie en prison pour longtemps. Quoi. Je brise des vies derrière.
En écrivant ces lettres, vous espérez quoi, concrètement ?
Concrètement, savoir s'il est vraiment vivant, qu'il nous a abandonnés du jour au lendemain, ou savoir si mes pires craintes sont réelles et que mon père est mort, et à ce moment-là, pouvoir l'enterrer et faire punir ses assassins.
Quel effet produisent ces lettres ?
Pour moi, au début, rien.
Il n'y a pas de policier qui vous appelle pour dire « on a reçu une lettre de vous, on aimerait en savoir plus ». Rien.
Rien, rien. C'est ce que j'attendais, justement. Je pensais être entendue, que mon frère, ma mère, ma sœur allaient être entendues. Rien. Rien.
Isabelle Poinçot, à l'époque, vous êtes substitut du procureur à Nice. Et ce que Rosen ne sait pas, c'est qu'en mars 2001, une de ses lettres atterrit bien sur votre bureau. Vous en recevez beaucoup, des lettres comme ça, je suppose. Pourquoi est-ce que celle-ci a retenu votre attention ?
C'est une lettre extrêmement convaincante parce qu'elle est précise, parce qu'elle est bien écrite, parce qu'elle est détaillée. Et elle dit beaucoup de choses que je peux vérifier tout de suite en plus.
Alors comment vous procédez justement après lecture de la lettre ?
Alors d'abord, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle a fait une dénonciation, une recherche dans l'intérêt des familles au commissariat de Nice. Donc je me renseigne sur cette procédure. J'apprends que dans le cadre de cette procédure, sa sœur aînée a été entendue et confirme les suspicions de sa sœur. Je me renseigne en même temps, je vois qu'il y a un divorce qui a été prononcé entre les époux Baudet, et je me rends compte que ce divorce a été prononcé en 2000, alors que donc le père a disparu depuis 1998, et qu'en effet cette procédure a été faite entièrement à l'absence du père de Rosen. Donc ça commence à faire beaucoup d'éléments, dans le sens où effectivement le père de Rosen a disparu. Et donc, évidemment, immédiatement, je prends attache avec la police judiciaire de Nice, puisque je sais qu'ils ont traité une affaire où Yann Baudet était suspecté d'une tentative d'assassinat.
Donc, confirmation qu'il a bien été interpellé, qu'il est en prison.
Confirmation qu'il a bien été interpellé en prison. Et donc, je décide, évidemment, de lancer des investigations. Je saisis, en fait, la police judiciaire de Nice pour une enquête préliminaire et pour vérifier auprès de tous les fichiers si le père de Rosen a bien disparu ou pas, parce qu'il ne faut pas non plus lancer des investigations sur une mort que l'on suspecte, mais qu'on est sûr de rien.
Vous la prévenez que vous vous occupez d'elle, que sa lettre ne s'est pas perdue ou pas ?
Non.
Pourquoi ?
D'abord, je ne voulais pas exposer Rosen. Il fallait la protéger. Ça, c'était le premier impératif, puisque ça faisait 3 ans que la victime avait disparu. C'est la seule qui en parle, c'est la seule qui le dénonce. Donc, il ne fallait surtout pas que l'on sache toute cette enquête allait démarrer grâce à Rosen Baudet. Elle dénonce un crime dans le milieu familial. On pouvait craindre que si son frère ou sa mère l'apprenait, elle pouvait bien sûr subir des risques de pression, des représailles. Je savais que Yann Baudet était quelqu'un qui était suspecté d'être très violent. Et donc je ne voulais surtout pas que Rosen puisse lui arriver quelque chose.
La PJ de Nice ouvre donc le dossier, discrètement. Elle enquête sur le disparu François Baudet, dans le milieu de la brocante. Il est connu. Sa spécialité ? Les cartes postales anciennes. Avec sa femme, il a écrit 3 beaux livres sur le sujet, des livres qui font encore aujourd'hui référence chez les collectionneurs. Les Baudet ont d'abord passé plusieurs années en Bretagne, avant de s'installer à Nice en 1988 et d'ouvrir une boutique d'antiquités, Cours Saléa. Le lundi matin, il tenait aussi un stand bien placé au marché des antiquaires.
Professionnellement, papa était reconnu car c'était un expert au niveau de la carte postale. Il se savait apprécié, il avait un nom. Il était aussi reconnu comme étant quelqu'un de particulier, qui avait des excès de colère aussi en public, parce que ça, c'est aussi une partie de la vérité. Mais comme d'un bon vivant, comme de quelqu'un de jovial, comme quelqu'un d'agréable, comme quelqu'un qui, oui, qui aimait la vie et qui était généreux.
Grande gueule, toujours prêt à plaisanter. Dans le milieu, on l'appelait Doudou. Un surnom sympathique pour un homme qui ne l'était pas toujours. Surtout avec sa femme.
Une fois, je l'ai rencontrée, je pense que c'était dans le magasin de la rue d'Aiguillon, et elle avait un coca. Et donc je lui ai demandé ce qui s'était passé, ce qui était arrivé. Et ben, cette première fois, elle m'a dit qu'elle était tombée, qu'elle s'était blessée, enfin bref. Et quelques temps plus tard, je l'ai vue à nouveau avec un coca. Et là, elle a avoué que son mari l'avait battue. Elle m'a répondu « Oui, Doudou m'a tabassée ». Et elle a soulevé ses manches et j'ai vu en effet qu'elle avait aussi des ecchymoses.
L'image du disparu se fissure un peu. Et les policiers découvrent que sa violence ne date pas d'hier. Annie est sa troisième femme. Avec la première, il a eu deux enfants qu'il a complètement délaissés. À 35 ans, il s'est remarié avec Colette, qui avait 15 ans de plus que lui.
Le lendemain du mariage, elle a reçu les premiers coups. Elle a été très, très, très violent. Les crises venaient sans raison, d'un seul coup, sur une simple conversation, d'un seul coup, il se mettait à crier. À s'agiter, moi à me bousculer, ma mère à la taper, mais sans raison. C'est pas des scènes de ménage, c'était de la violence gratuite.
Ce deuxième mariage a tenu 3 semaines. Un an plus tard, François épouse Annie Jacquet et naissent Sandrine, Yann et Rosaine dans un climat conjugal et familial toujours violent.
On avait vraiment peur de notre père. Oui, vraiment. On a souvent été frappés, Yann et moi. Moi, j'ai eu la chance de porter des lunettes à l'âge de 8 ans. Ben, ça coûte cher de remplacer une paire de lunettes. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai été épargnée. Yann a pris beaucoup plus de coups que moi, c'est clair. Mon père ne réfléchissait pas. Quand il nous frappait, c'était n'importe où. C'était n'importe où et avec ce qui lui tombait sous la main. Donc... L'exemple où il lui a cassé les côtes, c'était avec une chaise. Il lui a brisé une chaise sur le dos. Enfin, voilà, quoi. C'est la vérité. Ma mère, elle, nous frappait avec son martinet.
Je pense qu'il a régné très, très tôt dans ce couple, hein, et ensuite dans cette famille, une grande violence. C'est-à-dire que la communication, c'était une sorte de langage, quoi. Hein. C'était une sorte de langage entre eux. On communiquait que par la violence.
Un père violent, des enfants ballottés et livrés à eux-mêmes. Quand les Baudet habitaient en Bretagne, les gendarmes devaient intervenir régulièrement. C'est pour ça que les 3 enfants ont finalement été placés en foyer ou en famille d'accueil.
Tout le monde dit que votre père était relativement tyrannique en famille, voire violent. Pourquoi est-ce que vous vous évertuez à le rechercher, à vouloir l'enterrer, pensant qu'il est mort ?
C'est vrai que c'était pas un ange. Faut dire ce qui est, c'était pas. Mais en même temps, c'était pas non plus un monstre. Chez moi, je l'ai jamais vu frapper quelqu'un. Je l'ai jamais vu être violent physiquement.
Mais il avait été violent quand même avec votre sœur, avec votre frère.
Avec les trois, il a été extrêmement violent avec eux. Ça, je sais que. On m'a montré des cicatrices, on m'a montré des marques. Je sais qu'il a été violent par le passé, mais pas avec moi, pas à mon époque. J'ai 10 ans d'écart avec ma sœur et mon frère, et j'aurais compris si cela s'était passé dans une situation de violence extrême. Mon frère sera défendu, j'aurais pu comprendre, je me serais tue. C'était pas le cas, c'était fini. 10 ans plus tôt, j'aurais admis. À ce moment-là, non, c'était quelqu'un qui, avec le temps, baissait les bras. Il faisait plus peur, il était plus méchant.
Il avait été violent, il ne l'était plus.
C'était plus le même homme.
François Baudet a disparu depuis près de 3 ans. Et officiellement, la crime de Nice est chargée d'une enquête. Mais c'est aussi elle qui s'occupe de l'assassinat d'Éric de Vrientes, dans laquelle est impliquée Yann. Et cette affaire, c'est leur priorité. L'enquête sur la disparition de François Baudet reste pour l'instant très discrète.
Les policiers se demandent d'abord si le disparu ne serait pas en vie. Après tout, il a pu couper les ponts avec sa famille. Ils se penchent sur les registres des hôpitaux de la région de Nîmes, où François Baudet est censé avoir été soigné. Aucune trace de lui. Sur ses comptes bancaires, aucune activité depuis 1998. Ils examinent les inscriptions aux caisses professionnelles et aussi le fichier des cadavres non identifiés. Rien. Le père de Rosen est introuvable. Il lance alors des recherches à l'étranger, en Angleterre, en Suisse, en Russie, dans les pays où Annie a dit à ses filles qu'il avait refait sa vie.
Par l'intermédiaire d'Interpol, on a fait ses demandes, on a fait ses recherches. Évidemment, on sait que c'est relativement long. On fait des demandes, on attend les réponses.
Les réponses traînent. Et ça arrange bien les policiers. Certes, le parquet a ouvert une information pour assassinat, mais l'APJ se garde bien d'entendre qui que ce soit.
Dominique Rizet, on a un peu l'impression, dans cette affaire, que les policiers de Nice font traîner les choses. Pourquoi est-ce qu'ils n'interpellent pas tout de suite et Annie Baudet et son fils Yann ?
Ils ne font pas traîner les choses, Christophe. En fait, ils ont une stratégie. Ils ne veulent surtout pas que l'affaire Yann Baudet, disparition de son père, viennent polluer l'affaire Montillet, mort de M. de Vrientes. Je m'explique. Si l'enquête sur la disparition de François Baudet s'était passée normalement, les policiers auraient dû entendre assez rapidement Mme Baudet et son fils. L'affaire aurait été connue et Yann Baudet aurait été impliqué dans cette affaire de disparition, peut-être meurtre de son père. Si Geneviève Montillet l'avait appris, elle aurait pu s'en servir dans son propre dossier. L'affaire de la mort de son compagnon. Ce garçon, s'il était capable de tuer son père, il a pu être plus que le tueur à gages dans l'affaire de Vrientes. Il a peut-être été l'instigateur.
Ce que les policiers, au fond, ne veulent pas, c'est faire un cadeau à
Madame Montillet, qu'elle puisse utiliser devant la cour d'assises en minimisant son rôle et en disant « Voilà, c'est lui qui a tout fait ».
Le 22 juin 2003, Yann Baudet comparaît libre devant la cour d'assises des mineurs de Nice pour sa tentative d'assassinat sur Éric de Vrientes. Pendant les 5 jours d'audience, c'est Geneviève Montillet qui focalise toute l'attention. On ne parle que d'elle, l'instigatrice de l'assassinat, la diabolique d'Antibes.
Je vois une femme machiavélique et puis des gamins de 17 ans qui sont en plus sous l'emprise de la drogue. Ça atténue quand même quelque peu la sanction. D'autant plus que je dois dire qu'Yann Baudet passe très bien à l'audience. Il émeut la cour. Hein.
La défense de Yann, c'est son passé, son enfance misérable. Les jurés entendent des témoignages lourds, comme celui de son institutrice en Bretagne. Elle raconte qu'à 7-8 ans, Yann se réfugiait en pleine nuit dans sa classe pour échapper aux coups. À la barre, sa mère Annie apporte elle aussi un témoignage poignant.
On a également Madame Annie Jacquet qui vient en quelque sorte témoigner pour son fils. Cette bonne mère qui vient dire « Oui, oui, mon fils, on en a beaucoup souffert de François Baudet et il nous a laissé tomber, mais vraiment, on était sur le trottoir. »
Le plus bel argument de défense, c'est d'accabler le mari qui n'est plus là, mais elle dit qu'en plus, ce pauvre garçon, son père l'a abandonné, son père qui était violent, qui l'a fait souffrir, l'a laissé tomber comme il a laissé tomber toute sa famille. Ça peut avoir qu'un impact positif.
On comprend que ce garçon de 17 ans a accepté de tuer le compagnon de Geneviève Montillet parce que cet homme qu'elle disait violent lui rappelait son père. La cour se montre indulgente. Elle ignore, comme Yann d'ailleurs, et comme sa mère, qu'une information est ouverte pour l'assassinat de François Baudet. Elle ne sait pas que Yann et sa mère en sont les principaux suspects. Discrètement, au fond de la salle, des policiers de la brigade criminelle assistent au procès pour mieux connaître leurs suspects et leurs motivations.
C'est à la fois une sorte de mobile, puisque ce père était violentissime, et on entrevoit déjà une éventuelle défense dans les explications qui seront peut-être un jour amenées à donner. Pour nous, ce sont quelque part des aveux, finalement. C'est en tout cas de cette façon-là qu'on perçoit les choses.
À l'issue de ce procès, Geneviève Montillier est condamnée à 25 ans de réclusion criminelle. Yann écope d'une peine clémente, 5 ans de prison pour tentative d'assassinat.
Maintenant que l'affaire du meurtre d'Éric de Vrient est jugée, la PJ peut enfin se concentrer sur la disparition de François Baudet. Pour l'instant, dans ce dossier, les policiers n'ont que des suspicions qui reposent sur les soupçons de Rosen et de Sandrine. Mais pas de corps, pas la moindre preuve matérielle de l'implication de Yann et de sa mère dans la disparition du père.
Yann purge sa peine au centre de détention de Salon de Provence. À Nice, les policiers savent qu'ils n'ont pas assez d'éléments pour l'interroger, lui ou sa mère. Ils décident de mettre tout le monde sur écoute. Annie, Rosen, Sandrine et la petite amie de Yann, Valérie. Au bout d'un mois, ils découvrent qu'en prison, Yann utilise un téléphone portable. Lors d'un parloir, sa fiancée lui a apporté clandestinement une puce.
C'est pour nous une aubaine, évidemment. Et on va largement laisser faire parce que ce portable va probablement nous amener des éléments intéressants, des conversations intéressantes. Yann Baudet est bavard, Yann Baudet a besoin de contact et Yann Baudet continue à être influent depuis la maison d'arrêt.
Depuis sa cellule, Yann appelle régulièrement sa petite sœur, Rosen, qui vit maintenant à Nice. Les policiers s'aperçoivent qu'ils sont très proches.
Je voudrais comprendre, Rosen, pourquoi vous êtes si proche de votre frère quand il est en prison, alors même que vous l'avez dénoncé comme ayant assassiné votre père.
Il faut savoir que cette nuit-là, tout s'est brisé. Il n'y a plus rien, il ne reste plus rien. Je veux dire, j'ai perdu mon père, mais j'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma sœur. Bon, ma sœur, parce qu'elle est loin, pas qu'on s'est vraiment perdu, mais la distance fait qu'on n'est pas ensemble autant qu'on le voudrait. J'ai perdu mon frère, j'ai plus rien, j'ai plus de cellule familiale, je me retrouve toute seule du jour au lendemain. Ma mère m'abandonne littéralement. C'est pas facile quand on doit se construire, en sachant déjà que c'est pas une famille ordinaire, donc difficile de se construire dedans. Mais là, toute seule, rien du tout. Donc il y a un moment où on a besoin de se raccrocher à quelque chose. Et quand on voit ce frère aîné qui arrive et vous prend sous son aile, je me dis, bon, ben voilà, ça, ce que j'ai fait, ça a servi à rien. Peut-être qu'il n'est pas mort, peut-être que je me trompe. Au pire, autant lui donner une seconde chance.
Donc vous allez le voir au parloir, à la prison, régulièrement.
J'essaie d'y aller une à deux fois par mois. Mmh.
Et ça se passe bien avec lui?
Ça se passe très bien, très très bien. On essaye de rattraper toutes ces années perdues.
Au fond, vous êtes plus proche que vous ne l'avez jamais été avec Yann?
Oui. On n'a jamais été aussi proche.
Mais il sait que vous l'avez non. Balancé?
Non. Personne ne le sait.
Vous, pendant ce temps-là, vous continuez à le chercher, votre père?
J'ai abandonné. En toute franchise, arrivé, j'ai envoyé des lettres, sans aucun retour. J'ai fait la recherche, il n'y a rien qui revient, j'abandonne. Je perds espoir.
Elle perd espoir parce qu'elle ne sait pas que la police est sur le coup. Ça fait des mois que la PJ écoute discrètement la famille. Pour l'instant, ça ne donne rien. Mais le 24 mars 2004, 6 ans après les faits, ils savent que ça peut bouger, car c'est l'anniversaire de Yann.
On est quasiment persuadé que ce jour-là, il aura à sa disposition le téléphone tournant. C'est un jour particulier pour lui et on sait qu'il va tout mettre en œuvre, il va faire beaucoup d'efforts pour avoir un lien avec l'extérieur ce jour-là.
Les policiers lui tendent un piège en se servant de Rosen comme appât. Après 3 ans de silence, 3 ans sans nouvelles, il la convoque à la brigade criminelle. Il l'interroge sur la disparition de son père et sur le contenu des lettres qu'elle a écrites au procureur.
On lui fait savoir que on est sur son frère et sur sa mère et que on travaille assidûment sur eux et on est convaincu qu'ils sont concernés.
Le plan fonctionne. En sortant de la PJ, Rosen appelle immédiatement son frère en prison. Elle lui souhaite un bon anniversaire et bien sûr, elle lui raconte qu'elle vient d'être convoquée par la police. Yann ne réagit pas. Mais dans la soirée, il reçoit un appel de Valérie, sa fiancée. C'est elle qui lui apprend ce que Rosen n'a jamais osé lui dire. Elle lui parle des lettres au procureur, des 3 lettres qu'il accuse, lui et sa mère, du meurtre de son père. Dans la foulée, Yann appelle Rosen il est fou de rage.
Dans un premier temps, elle n'arrive même pas d'ailleurs à dire un mot. Elle ne répond pas. C'est oui, mais je, on a des onomatopées, mais je ne comprends pas.
Il est particulièrement excité au téléphone. Il va le dire à sa mère, il va le dire à sa sœur. Il va indiquer qu'il n'y est pour rien dans cette affaire, qu'il faut que la petite Rosaine retourne et dise que ben, tout ce qu'elle a raconté ne le concerne pas, qu'il n'a rien à voir avec cette affaire criminelle. Il est furieux.
Et il y a une volonté de la responsabiliser à l'extrême et de lui dire « mais c'est ta faute tout ça ». C'est ta faute, tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de faire. Tu vas en quelque sorte déchaîner la machine judiciaire, on ne pourra plus la contrôler. Et moi, pour rien, pour absolument rien, avec mon passé judiciaire, je vais prendre le maximum. Donc là, c'est la bête fauve. Hein.
Depuis sa cellule, Yann insulte, menace, mais reste très prudent. Il ne lâche pas le moindre indice sur la mort de son père. Le lendemain, il téléphone aussi à sa mère, toujours furieux. Sa mère prend peur et appelle son aînée, Sandrine.
Le 25 mars, donc, elle m'annonce qu'elle s'est suivie, que de toute façon, elle pense que la police va arriver d'un jour à l'autre. Donc là, je lui ai demandé ce qui s'était exactement passé.
Et là, Annie vide son sac. Oui, François est bien mort. Oui, c'est Yann qui l'a tué. Mais ça n'était pas un accident. Ça s'est bien passé le soir du 13 février 98, dans la chambre du motel de Nîmes. Rosaine et sa mère étaient dans la salle de bain.
Ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'elle est allée doucher Rosaine. Moi, je trouve surprenant qu'on aille doucher une gamine de 14 ans quand même.
En sortant de la salle de bain, la mère raconte qu'elle a vu Yann, les bras ballants. Le père était allongé sur son lit. Yann lui avait tiré une balle dans la tête.
Elle a vu mon père mort avec un filet de sang qui coulait de la tempe.
La mère raconte qu'elle a caché la scène à Rosaine, qu'elle l'a couché de force, la tête tournée vers le mur.
Il a fallu s'occuper du corps parce que mon frère avait su tirer mais n'était pas capable de s'occuper de la suite. Donc pour le couvrir, elle l'avait aidé.
Elle dit qu'après avoir roulé le corps dans le dessus de lit, elle et Yann l'ont chargé à l'arrière de la camionnette et qu'à 5h30, elle a réveillé Rosaine et pris la route de Nice. Elle dit qu'ensuite, ils ont déposé Rosaine à l'hôtel et qu'ils sont allés à l'entrepôt que Yann louait pour ses affaires. Un local équipé d'une chambre froide. Yann et sa mère y ont déposé le cadavre. Annie n'épargne aucun détail à sa fille. Les policiers qui écoutent sont sidérés.
J'ai eu l'occasion de rencontrer cette femme. Je la considérais déjà froide. Mais à ce point, ça allait au-delà de ce qu'on imaginait.
Annie précise que la chambre froide était en panne. Pendant 2 mois, le corps est resté là, comme ça. Alors il a bien fallu couvrir l'odeur. Heureusement, il lui restait un stock de bouteilles d'eau de toilette.
Elle l'avait arrosé de Cologne à Difron. Alors ça m'a... J'imaginais, je me disais, mais comment on peut aller arroser un cadavre de parfum plusieurs fois par semaine? Enfin, ça déjà, ça, je comprenais plus, quoi.
Annie explique ensuite à Sandrine qu'avec Yann, ils ont décidé d'enterrer le corps. Yann était prêt à s'en débarrasser dans le premier terrain vague venu. Annie voulait l'enfouir là où personne ne risquerait de venir le chercher. Alors elle s'est souvenue que sa mère possédait un petit terrain isolé en Bretagne.
Autant on pouvait envisager, espérer des aveux, mais pour nous, le fait d'apprendre que le corps se trouve enterré sur une propriété de Bretagne, c'est jackpot. C'est-à-dire que pour nous, ça c'était inespéré.
La mère et le fils ont donc chargé le corps en putréfaction dans la camionnette. Pour un voyage de 1300 km, Nice, Plumeaugat, dans les Côtes d'Armor.
Par moments, je me disais, mais elle se rend pas compte qu'elle me parle de mon père, là. C'est aucune humanité. Et moi, en l'écoutant, je me disais, mais d'où je viens, de qui je viens, qu'est-ce que c'est que cette famille, quoi. Voilà, c'est un mauvais film, ça va s'arrêter, quoi.
Mais ça ne s'arrête pas. Toujours au téléphone, la mère raconte à sa fille que, par chance, le champ de Plumeaugat venait d'être labouré, mais qu'il a fallu tout de même creuser profond. 1,50 m. Avant de refermer le trou, ils ont recouvert le cadavre de chaux vive pour le dissoudre. Sous le choc, Sandrine ne trouve rien de mieux à dire qu'elle aimerait pouvoir enterrer son père dignement.
Madame Annie Jacquet, toujours avec le même ton monocorde et détaché, va dire, mais attends, tu te rends pas compte. Déjà, premièrement, il va pas rester grand-chose, parce qu'avec ce qu'on y a mis. Et puis en plus, hein, frais d'obsèque, tu vas te prendre 2 briques en travers de la gueule. Je reprends les dépositions.
À Nice, depuis leur poste d'écoute, les policiers n'en reviennent pas. Annie a tout déballé au téléphone. Elle vient de leur désigner l'assassin, son fils, Yann.
Désormais, les policiers niçois ont du lourd et ils ont peut-être le cadavre. Ils prennent immédiatement la route de la Bretagne et débarquent à Plumeaugat sur ce terrain évoqué lors des écoutes et ils convoquent Sandrine pour qu'elle les aide à déterminer l'endroit où il faut creuser.
Le terrain est grand, je ne sais pas où chercher, sauf que lorsque on arrive sur le terrain, à l'arrière d'un des bâtiments, il y a un petit bouquet de fleurs, et ce bouquet de fleurs, c'est Sandrine qui l'a mis la veille, parce que la veille, elle a appris par sa mère où se trouvait le corps. Je fais venir une pelleteuse et je fais faire d'énormes fouilles à cet endroit-là.
C'était terrible parce que chaque coup de tractopelle, j'avais peur. J'avais peur de voir et pourtant il fallait que ça se fasse.
Mais les policiers ne trouvent rien. Pas la moindre trace du corps de François Baudet. Au même moment à Nice, leur collègue interpelle Annie. Elle n'est pas surprise. Elle dit même aux policiers qu'elle les attendait. Avant d'être interrogée, elle accepte de guider à distance, par téléphone, le commandant Brunache pour l'aider à retrouver le corps.
Elle va même me donner des précisions sur les conditions d'enfouissement. Elle va me dire, vous allez chercher à tel endroit, à 1,50 m environ, vous allez trouver une plaque de tôle. Sous cette plaque de tôle, vous allez trouver des parpaings. Et sous les parpaings, vous allez trouver le corps.
Et à un moment, le tractopelle a touché les parpaings. Donc il a déterré autour et puis ensuite les parpaings ont été enlevés, la tôle. Et là, on a retrouvé mon père.
Ce corps est enfoui là depuis plus de 6 ans. Donc je ne sais pas dans quel état je vais le retrouver. Sous la chaux, il y a 25 kilos de chaux. Il y a une espèce de magma cubique important et seule la tête dépasse de ce cube. C'est émouvant de regarder la position de Sandrine lorsque le corps de son père est mis à jour et la dignité avec laquelle elle était présente.
L'autopsie confirme que François Baudet a été tué par arme à feu. Il a reçu une balle de 22 long rifle à l'arrière de la tête.
Le jour même, Yann Baudet est extrait de sa prison de Salon de Provence pour être placé en garde à vue.
Yann ignore que sa mère vient d'être arrêtée et que le corps de son père a été retrouvé en Bretagne. Pendant sa garde à vue, il fait preuve d'un sang-froid incroyable.
Yann Baudet est un garçon déjà qui a eu affaire plusieurs fois à la police et à la justice. Donc il n'est pas spécialement, il n'est pas même du tout impressionné par le fait d'être en garde à vue. C'est un jeune homme qui n'a pas fait spécialement d'études, mais qui est très intelligent, manipulateur, charmeur.
Très sûr de lui, il affirme aux policiers que les lettres de Rosen sont un tissu de mensonges et que son père est bien vivant, il est en Angleterre, ou peut-être en Russie, où il baignait dans un trafic de copies d'objets anciens. Dans le bureau d'en face, sa mère réitère consciencieusement ses aveux. C'est Yann qui a tué son père, dans la chambre du motel.
Elle dit qu'il a tué le père parce que manifestement ça devenait insupportable pour tout le monde, mais qu'il a réagi là de façon inconsidérée, qu'elle aurait même tenté de le dissuader d'être si violent vis-à-vis de son père.
De l'autre côté du couloir, les policiers abattent leur carte maîtresse. Ils annoncent à Yann qu'ils viennent de déterrer le corps de son père en Bretagne. Yann comprend que si les policiers ont retrouvé le corps, c'est que sa mère a parlé.
Maître Vazana, vous êtes dans ce dossier l'avocate de Yann Baudet. Comment est-ce qu'il réagit quand les policiers lui apprennent que d'abord on a retrouvé le corps de son père et ensuite que sa mère l'a chargé, enfoncé?
Alors il y a une réaction assez simple, c'est qu'il comprend tout de suite que sa mère a rompu le pacte qu'ils avaient, et dans un premier temps, il va à son tour accuser sa mère d'être celle qui aurait exécuté François Baudet.
Mais quand il accuse sa mère, quelle est sa version ?
Alors il va clairement indiquer que c'est elle qui a tout prévu et que c'est elle qui a décidé d'exécuter et qui a exécuté. Donc il repose l'entière responsabilité, il projette l'entière responsabilité du crime sur sa mère.
Et lui, il se donne quel rôle ?
En fait, c'est celui qui aurait aidé sa mère à camoufler le crime.
La mère accuse le fils accuse la mère, mais où est la vérité ? Depuis l'affaire de Vrient, les policiers savent que Yann est capable de tuer. Au quatrième interrogatoire, il leur sert une quatrième version du meurtre.
Et là, il a dit, bon, je vais vous dire exactement comment ça s'est passé. Sa mère lui avait donné de l'argent, 10 000 francs, je crois, pour acheter une arme. Un pistolet automatique avec silencieux auprès d'un toxicomane non identifiable dans le Vieux-Nice. Il a remis cette arme à sa mère. Ensuite, ils se sont retrouvés plus ou moins par hasard au salon de Montpellier.
À la fin du salon, Yann décide de rester avec ses parents. Les Baudet prennent la route de Nice et toute la famille s'arrête pour la nuit dans un motel de Nîmes.
Sa mère lui a dit, bon, c'est ce soir qu'on le fait.
Yann raconte qu'au restaurant, son père s'absente un instant et qu'il voit sa mère verser un somnifère dans son verre de vin. Elle a l'habitude de faire ça le soir pour abrutir son mari et éviter les crises. Yann raconte qu'ensuite, sa mère insiste pour que Rosen aille se laver les mains. La petite obéit et la mère en profite pour mettre quelques gouttes de somnifère dans le verre de sa fille.
Quand ils sont revenus à la chambre, Rosen et M. Baudet sont endormis très rapidement.
Yann raconte qu'il s'endort aussi. Jusqu'à 5 heures du matin, où sa mère le réveille. Elle lui tend un oreiller, elle lui tend l'arme, elle lui ordonne de tuer son père. Yann dit qu'il refuse, mais que sa mère lui fait du chantage.
Il dit qu'il a été contraint de tuer son père parce que sa mère le menaçait de le balancer sur l'affaire Montillé. Et donc, elle le tenait comme ça, et c'est pour ça qu'il aurait accepté de tuer son père. Il a mis un oreiller sur la tête de son père et il lui a tiré un coup de feu dans la tête.
Dans Dans le lit d'à côté, Rosen ne se réveille pas, assommé par le somnifère.
Jean-Pierre Buffoni, vous êtes le juge d'instruction qui a dirigé cette enquête et à un moment donné, compte tenu des témoignages divergents de la mère et du fils, vous organisez une confrontation. Alors comment ça se passe? Ils sont là tous les deux dans votre bureau avec leurs avocats.
Oui, c'est un choc de personnalité et chacun d'entre eux va maintenir leur position. D'un côté, on a une mère qui reste sur son discours, assez froide dans son mode de fonctionnement, et son fils qui, lui, tout en reconnaissant les faits, va vouloir partager la responsabilité entre les deux.
Mais alors, qui a pris l'initiative? Qui est le plus responsable? Parce qu'on comprend bien que pour vous, ils sont co-responsables du meurtre, mais y en a-t-il un, selon vous, qui a pris l'ascendant sur l'autre?
Je crois que ils étaient concertés, ils avaient besoin l'un et l'autre de se soutenir. Ils ont agi vraiment de concert. C'est-à-dire que c'est cette interaction qui rend le crime possible. Yann ne l'aurait peut-être pas fait seul, et certainement pas, parce que d'après ce qu'on a pu comprendre, son histoire, sa trajectoire personnelle, il avait déjà eu ce projet, d'après ce que disait Rosen, mais ça ne s'est jamais réalisé. Et la mère seule ne pouvait pas le faire aussi.
Vous organisez, en janvier 2006, une reconstitution donc sur les lieux du crime. Comment ça se passe? Comment se comportent les deux accusés? Et Rosen est là, évidemment, puisqu'elle était là ce jour-là.
Rosen, c'est une jeune femme qui est très, très forte, très sûre d'elle, qui supporte le regard des deux autres, hein, et c'est pas facile quand on pense que dans le dossier, il y a eu des courriers, des menaces téléphoniques, hein, passées juste avant que les faits soient révélés. On aura la mère qui a une emprise réelle, non seulement sur Yann, mais aussi sur Rosen, qui va les diriger, alors que Yann Baudet, lorsqu'il a refait le geste de tirer sur la tête de son père, visant le crâne de son père, va s'effondrer, va s'arrêter. Il ne pourra plus avancer.
Elle est froide, lui au contraire est très émotif.
Il est très émotif et il va arrêter. Et à un moment, il aura une phrase, il nous dira « je ne peux plus y aller, je ne peux plus faire, j'en ai assez fait ».
Au fond, qu'est-ce qu'elle montre la reconstitution? L'emprise qu'Annie avait sur son fils?
L'emprise qu'avait Annie sur l'ensemble de sa famille.
Reste maintenant à trouver le mobile de ce crime. Ce qui est sûr, c'est que François Baudet ne laisse pas d'héritage. On ne l'a pas tué pour son argent. Lors d'un interrogatoire, Annie avance une thèse crapuleuse. Yann aurait tué son père pour prouver à l'un de ses amis qu'il était capable de tuer. Un ami artiste peintre qui cherchait un tueur à gages pour supprimer l'un de ses concurrents, il proposait une prime d'1 million de francs. Annie dit que Yann était prêt à tout pour remporter ce contrat.
Vu que son fils avait, des années auparavant, dans l'affaire Montillé, exécuté un contrat en roulant sur un cycliste, elle a voulu nous faire croire à un scénario identique.
Les policiers interrogent le peintre. Il connaît bien Yann et l'a même hébergé plusieurs fois dans son atelier quand il était à la rue. Mais l'histoire ne tient pas debout. Il n'y a jamais eu de contrat. Les policiers se recentrent alors sur la vie de la mère, cette femme qui leur ment froidement, cette femme qui n'a pas hésité à balancer son fils.
Elle est née au sein d'un couple complètement déchiré, où il y avait de la violence également. Elle avait un rapport détestable avec sa mère, qui était peu maternelle, très froide, très indifférente. Elle avait un rapport fusionnel avec son père, qu'elle a perdu très tôt. Donc déjà, si vous voulez, au départ, ça ne se présente pas sous les meilleurs auspices.
Annie a grandi dans un foyer de la DAS. À 18 ans, elle a épousé François Baudet qui avait 20 ans de plus qu'elle. Très vite, le mariage a tourné au cauchemar.
Au lieu d'être l'épouse aimée, ce dont elle rêvait, puisqu'elle n'a pas été une enfant aimée, qu'elle n'a pas été une adolescente aimée, elle imaginait que là, enfin, elle avait découvert l'amour. En réalité, on la corrige parce qu'elle n'est qu'une employée de maison.
Alors Annie Baudet s'enfuit régulièrement, avec ou sans ses enfants.
Elle est partie de très nombreuses fois sans nous. Moi, j'ai vu mon père pleurer, mais à nombreuses reprises, il n'était plus rien.
Chaque fois, le scénario est le même. François lui écrit des lettres enflammées, il lui promet de changer. Il la cherche partout.
Il m'a téléphoné une fois, il est venu jusqu'à Morlaix, hein, persuadé de la trouver dans le secteur. Il l'a cherché, il était épuisé, parce que d'abord il ne dormait pas, il était malheureux comme un chien, et il la cherchait désespérément, quoi. Mais ce que je ne comprends pas d'ailleurs non plus, c'est qu'à chaque fois, le couple se rabibochait.
À chaque fois, Annie accepte de rentrer, mais elle élève ses enfants dans la haine du père. Et Yann, dès son plus jeune âge, s'oppose à son père pour défendre sa mère.
Yann voulait protéger maman parce que quelque part, je pense qu'il en avait marre de voir ma mère malheureuse. C'est vrai qu'on en avait tous marre de cette situation. Et je crois qu'il s'est pris pour le sauveur de ma mère. Et je crois qu'il aurait tout mis en pratique pour l'aider, pour faire que ça cesse. Jusqu'à tuer mon père. Ouais.
Un fils qui veut défendre sa mère, ce mobile tient la route. Sauf que tous les témoignages s'accordent sur un point. À la fin de sa vie, François Baudet avait changé. Il était devenu inoffensif.
Yann Baudet donc reconnaît que pour ce qui le concerne, ça faisait 5 ans qu'il n'y avait plus de violence à son encontre de la part de son père, mais dit que sa mère prétendait avoir toujours peur de son père et que il fallait l'éliminer parce que si ce n'était pas lui qui y passait, elle, sa vie était en danger. Et notre enquête n'a absolument pas déterminé ça puisqu'il n'y a pas eu de plainte de violence depuis plus de 5 ans avant les faits.
Alors pourquoi tuer un père qui ne représente plus de réelles menaces ?
À la fin de votre instruction, est-ce que vous êtes au clair sur le mobile ? Pourquoi est-ce qu'ils ont tué cet homme ?
C'est la grande question, c'est le grand mystère. Le seul motif qui existe, c'est cette vengeance, c'est cette parce que François Baudet aurait été violent. Le problème, c'est que lorsqu'on entend sur les dernières années les témoins, les gens qui le connaissent, il n'apparaît pas comme cela. Alors on a cherché.
L'argent.
L'argent, c'est un des motifs. Alors les comptes n'ont pas bougé, mais on est dans le milieu de la brocante.
Donc tout se paye en liquide.
Tout se paye en liquide et les échanges se font finalement en pleine confiance lorsqu'on est entre commerçants. C'est ce qui apparaît. On dit que François Baudet est un homme d'une grande rigueur dans ses affaires.
Elle a pu lui voler de l'argent liquide ?
Alors peut-être y avait-il un trésor. Mais il faut se souvenir que François Baudet est un homme qui est un peu à l'avant-garde de la brocante. Et c'est lui qui a initié finalement le marché des cartes postales. C'est lui qui est l'auteur de ce livre, d'un livre qui fait toujours référence sur les cartes postales. Donc il avait un fonds de cartes postales. Ce fonds, on ne l'a jamais retrouvé. Rosen, lorsqu'elle nous explique qu'ils sont partis en Italie, François Baudet s'était lancé dans le marché des répliques d'antiquités. Manifestement, ça marchait bien. Et puis des cristaux, des dômes et autres pattes de verre qui, à l'époque, étaient quand même en pleine mode. On ne les a pas retrouvés non plus.
Vous les renvoyez devant la cour d'assises sous quel chef d'accusation, tous les deux ?
D'assassinat, c'est-à-dire de meurtre avec préméditation.
Meurtre avec préméditation pour tous les deux ?
Pour tous les deux.
Alors naturellement, Dominique, les deux prévenus, Annie et Yann Baudet, ont fait l'objet d'expertises psychiatriques. Alors d'abord, que disent les experts dans leur rapport concernant Yann Baudet ?
Il a 29 ans, un discours sensé, un niveau intellectuel dans la moyenne, et il se prête volontiers au jeu des questions-réponses des experts. C'est important de le dire, il est coopératif. Aucune pathologie psychiatrique, en revanche, une personnalité psychopathique, notamment parce qu'il ne respecte pas les contraintes sociales, parce qu'il passe assez facilement à l'acte, acte violent, et parce qu'il est toxicomane. Il dit, lui, « Je ne suis pas bien du tout, j'ai ça sur le dos. J'ai écouté ma mère, et ma mère, je n'en ai qu'une. » Les experts vont interpréter ça en disant « Il apparaît plus comme le jouet de sa mère que comme le véritable instigateur d'un crime. » En fait, c'est un garçon qui est très facile à manipuler. Et ça, c'est intéressant parce que les experts disent que quand il est manipulé par quelqu'un, il peut se montrer dangereux parce qu'il est déjà familiarisé avec la violence, il a grandi dans la violence. C'est quelque chose qu'il connaît par cœur. Ça se termine par un passage assez compliqué de 3 lignes dont je vais vous faire grâce, juste pour dire qu'il est tout à fait récupérable.
Il considère qu'il est psychopathe récupérable.
Absolument. Et ça,
et
c'est important.
Annie Baudet.
Alors, Annie Baudet, c'est assez particulier. L'expert qui va la rencontrer, Et quand il ira témoigner plus tard devant la cour d'assises, dira « Jamais de toute ma vie d'expert, je n'ai rencontré une femme comme elle. » En fait, on a l'impression qu'elle lui a vraiment fait peur. Organisation perverse de la personnalité. Aucun scrupule, aucune réticence à charger son fils. Elle dit de lui « C'est un monstre ». Et là, l'expert va se permettre de faire un commentaire tout à fait personnel. Il dit « C'est une attitude pour le moins surprenante, car même si son fils était l'instigateur de ce crime, eh bien, une mère digne de ce nom serait tentée de le couvrir ou d'excuser son enfant. » Et là, ce n'est pas le cas. Elle est à l'opposé de ça. Elle le charge. On sent que l'expert, il est complètement déstabilisé par elle. En fait, cette expertise, c'est un raz-de-marée. Et derrière ça, il ne reste rien d'Annie Baudet. Écoutez bien, une prise en charge psychothérapeutique, question, réponse, ça ne servira à rien. Un traitement, réponse, il n'y en a aucun.
Le 2 juillet 2007, le procès d'Annie Jacquet et de Yann Baudet s'ouvre devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice. Un procès qui a des allures de réunion de famille. Dans le box des accusés, la mère et le fils. Et sur le banc des parties civiles, les deux sœurs. C'est la première fois depuis la mort du père 9 ans plus tôt que les Baudet sont réunis.
Je l'apprendais parce que j'ai tellement eu honte de cette histoire. Et là, de savoir que notre... le linge sale de la famille allait être étalé comme ça devant des personnes qui ne nous connaissaient pas.
Ça fait 3 ans qu'Annie n'a pas revu ses filles. Pourtant, elle n'a aucun regard pour elle.
Elle est froide, elle est sans expression, elle est terne. Je la regardais en me disant, mais c'est ma mère, et je ne la reconnais pas.
Probablement qu'elle doit avoir honte déjà de la situation absolument atroce de voir toute une famille rassemblée dans une salle d'audience de cour d'assises où les uns ont le rôle des accusateurs et les autres le rôle des accusés. Je pense que pour une mère, ça doit être des moments inconcevables et atrocement difficiles à vivre.
Annie Jacquet est repliée sur elle-même, muette, passive. Yann, lui, a du mal à contenir sa rage.
La première phrase de Yann Baudet lors du premier procès, c'est d'interpeller Rosane Baudet en lui disant « Ce que tu as fait, je ne te le pardonnerai jamais. » Je ne te le pardonnerai jamais. L'entrée en matière était déjà assez sympathique.
Le lendemain, Rosane est appelée à la barre. Elle témoigne sous les regards lourds de sa mère et de son frère.
Elle est plus que touchante, elle est poignante, elle est... Enfin, elle fait chialer, quoi. Quand on imagine ce qu'elle a enduré, ce qu'elle a vécu, par où elle est passée. Et elle mène ce combat toute seule depuis qu'elle a 14 ans.
Et dès qu'on parle des faits, la mère et le fils se livrent dans le box, une guerre sans merci.
Pour moi, c'était chacun voulait sauver sa peau et en mettait le maximum sur le dos de l'autre. C'était, voilà, on se rejette la balle. Et de toute façon, on ne parlera pas.
Elle a complètement réduit son rôle à celui d'une vague complice qui l'aurait un petit peu aidé à un petit peu faire disparaître le corps. Voilà. Alors qu'au départ, elle est poursuivie par le parquet pour assassinat.
Annie minimise sa responsabilité. Yann, lui, continue de s'enfoncer. Il coupe la parole, invective les témoins.
J'avoue que moi, en avocat de la partie civile, je me disais, mais là, Yann, tu es en train de te suicider judiciairement. Parce que c'était tout ce qu'il ne fallait pas faire.
Le 3e jour, la présidente fait diffuser des extraits des écoutes téléphoniques. On y entend Yann hurler sur sa sœur. L'effet est désastreux.
On entend des rugissements à l'intérieur du magnétophone. Ça glace le sang. Hein. Et là, on sent le petit voyou qu'il était. Hein. Depuis qu'il a 14-15 ans, le petit toxicomane et grand toxicomane qu'il est devenu à un moment donné, le tueur à gages, etc.
Yann a l'air dangereux, ouais. C'est, Moi, je me dis qu'en fait, oui, c'est un fou, c'est un psychopathe, et que de toute façon, une fois dehors, il recommencera.
Après 5 jours de débat, la cour n'est pas plus avancée. Qui a décidé de tuer François Baudet? Qui de Yann ou de sa mère a influencé l'autre? 2 heures de délibéré, et le verdict tombe. Tous les deux sont reconnus coupables d'assassinat. Annie est condamnée à 22 ans de prison. Yann a 27 ans, dont 2/3 incompressibles.
Qu'est-ce que vous attendiez de ce procès, Rosane?
Malheureusement, j'attendais tout de ce procès. J'aurais aimé qu'ils reconnaissent, qu'ils aient des remords, au moins un peu de remords, qu'ils s'excusent, ou au moins qu'ils... Et de savoir pourquoi, surtout ça. Pourquoi ça a été fait, et malheureusement, on n'aura rien.
Pendant votre témoignage, ça se passe comment avec votre mère et votre frère, là, qui sont dans le box des accusés?
Alors, ma mère, elle va passer tout le procès la tête dans les mains.
Elle vous regarde pas?
Ah non, elle baisse la tête, elle regarde très peu.
Et Yann?
Mon frère, lui, est beaucoup plus agressif, beaucoup plus présent, très, très agressif.
Avec vous?
Oui, avec tout le monde. Tout le monde. Autant avec Annie, Sandrine, moi, les témoins qui passent à la barre.
Quand tombe le verdict, vous vous dites quoi? C'est juste? C'est fini? Ouf?
Au début, je fais ouf. D'un autre, je fais mon Dieu, 27 ans. 22, 27 ans, c'est d'un côté, c'est oula, c'est beaucoup. D'un autre côté, c'est pas assez, parce qu'il y a quand même eu... faut voir quand même que pendant le procès, mon frère donc, est très violent, mais aussi il dit qu'il regrette pas, que si ça devait recommencer, il recommencerait, et puis qu'il s'arrêterait pas à mon père. Donc je suis là, je fais ouf. Dans 27 ans, ça va être court. D'un côté, c'est quand même une peine assez lourde. Donc c'est partagé, mais c'est surtout, je me dis sur le moment, ouf, c'est fini, puis j'ai pas le temps de m'asseoir, que j'entends mon frère de l'autre côté dire « on fait appel dès lundi ». Et là, c'est le coup de massue, gros coup de massue, parce qu'autant il faut assumer la semaine qui s'est passée, mais savoir que ça va recommencer.
Quelques jours plus tard, Yann fait appel de sa condamnation. Immédiatement, le parquet fait également appel des 2 condamnations pour qu'Annie soit rejugée avec Yann. Et le 7 septembre 2009 s'ouvre un second procès devant la cour d'assises de Draguignan. Pendant 5 jours, les jurés vont rejuger ce parricide à 4 mains.
La cour.
L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir, vous pouvez faire entrer les accusés.
Pour la 3e fois de sa vie, Yann Baudet comparaît devant une cour d'assises. Il a compris que son comportement peut faire la différence. Dès son entrée dans le box, il se présente comme un homme très concentré, préparé.
J'ai vu tout de suite qu'il avait changé. J'ai vu tout de suite que ce n'était pas le même homme. Je l'ai senti plus solide. Plus posé, plus réfléchi. Il avait mûri.
Dans le box, il retrouve sa mère. Elle n'avait pas fait appel. Elle ne voulait pas de ce second procès.
Elle l'aborde de manière passive, de manière un peu perdue, on va dire sans espoir. Elle n'attend plus rien de ce qui peut arriver, parce que vu son âge, vu la décrépitude de sa famille, vu les accusations qui ont été portées sur elle par les êtres qui lui sont le plus chers, elle n'attend plus grand-chose, si vous voulez.
Elle a des traits qui sont terribles. Et quand je l'ai vue, moi, j'ai eu le sentiment d'une femme... desséchés, dépéris.
Sans surprise, Annie et Yann se rejettent la responsabilité du meurtre. Ils répètent inlassablement la même version. Yann affirme que sa mère l'a forcé à tuer son père et Annie que son fils l'a mise devant le fait accompli. Mais cette fois-ci, le discours d'Annie passe mal.
Elle se donnait toujours le beau rôle, toujours se faisant passer pour une victime, donnant quelques points positifs à son fils, essayant de se faire passer pour une bonne maman en disant « oui, mais mon fils, il avait des excuses ». Donc, on avait le sentiment que c'était une maman aimante. Et chaque fin de propos, il y avait une énorme vacherie, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, une énorme vacherie pour Yann.
À la barre, un des experts insiste sur la froideur d'Annie Jacquet, notamment envers Yann. Il dresse d'elle un portrait terrible.
On sait qu'une mère, quelle qu'elle soit, va garder un soupçon d'affection pour son enfant, va essayer de le défendre, de le sauver. Et les mères, ou elles se montrent indifférentes, pourquoi pas, mais elles ne vont pas jusqu'à charger.
Rapidement, ce procès en appel bascule en faveur de Yann. Annie, qui se présente en victime de son fils, agace et irrite tout le monde.
Par sa haine sous-jacente vis-à-vis de son fils, elle a indisposé les jurés, elle a exacerbé le président et elle a énervé la partie civile.
Elle a compris que parce qu'elle était mère, on n'admettrait pas d'elle qu'elle n'ait pas une part de responsabilité dans le parricide.
Et à la limite, vu qu'elle coulait, elle coulait tout le monde avec elle. Voilà.
Devant la cour, Sandrine et Rosaine viennent parler longuement de leur père. Un père qu'elles aimaient, malgré ses actes de violence. Yann prend la parole. Pour la première fois, il exprime des remords, mais il ajoute aussi qu'il ne regrette pas son geste.
Il ne connaît pas le François Baudet que les gens peuvent décrire, le François Baudet apparemment aimant et gentil, il ne connaît que l'homme violent. Et Yann l'exprime très bien en disant « je ne connaissais pas mon père ». Donc je ne peux pas exprimer de regret pour quelqu'un que je ne connaissais pas.
Pas de regret, mais des excuses. Après 5 jours d'audience, Yann demande pardon à ses sœurs.
Il était sincère. Et ça m'a d'autant plus touchée. C'est pour ça que je suis allée vers lui. Parce que là, c'est mon sentiment. Il ne s'adressait pas aux jurés. Il s'adressait à Rosaine et à moi.
Il s'est installé dans un rôle que je qualifierais facilement de comédien, allant faire des déclarations au bénéfice de ses sœurs assez touchantes. Et donc, à partir de là, il a pu jouer la carte d'un geste impulsif qu'il a eu sous une mauvaise influence. Elle, comparativement, a été incapable de se présenter de cette manière. Elle a été nettement moins séduisante.
Et les jurés en tiendront compte.
Maître Vasana, au deuxième procès, on a l'impression que votre client n'est plus du tout le même homme. Qu'est-ce qui s'est passé?
Le deuxième procès, effectivement, démontre un jeune homme qui a beaucoup avancé, qui a fait un gros travail sur lui-même, un travail de deuil dans sa relation avec sa mère. Le fait qu'on ait eu un délai important entre le premier procès et le deuxième procès a permis de faire ce gros travail de deuil. Mmh.
Ça peut aussi être analysé comme une stratégie pour séduire les jurés que vous auriez montés ensemble, vous et lui.
Je lui ai conseillé d'être là pour lui et de ne pas être en recherche d'autre chose. Et au deuxième procès, il a essayé de montrer qui il était vraiment, avec le bon comme le mauvais.
La cour. Après seulement 2h30 de délibéré, la cour et le jury rendent leur verdict.
Vous êtes reconnus l'un et l'autre coupables d'assassinat sur la personne de M. François Baudet en coaction. La cour et le jury, à la majorité absolue, vous condamnent M. Yann Baudet à la peine de 25 ans de réclusion criminelle, Mme Jacquet à la peine de 25 ans de réclusion criminelle. Il n'est pas prononcé de mesure de sûreté par la juridiction.
2 ans de moins pour Yann et pas de peine de sûreté. Annie prend 3 ans de plus qu'en première instance. Cette fois, les jurés ont mis la mère et le fils à égalité. Et Yann repart pour sa prison avec beaucoup d'amertume.
Malgré ce deuxième procès, rien n'est ressorti une fois de plus de sa part. Ni pour moi, ni pour mes sœurs. J'aurais aimé juste une chose, moi. Qu'elle nous respecte mes sœurs et moi. C'est tout. Ça s'arrête là.
Comment est-ce que vous réagissez au deuxième verdict de ce deuxième procès qui met votre frère et votre mère à égalité? Ça vous paraît juste, ça?
Oui. Parce que si elle n'a pas commis, elle n'a pas appuyé dessus, elle l'a quand même bien poussé à ça. Elle l'a entraîné pendant des années pour ça. Ça ne serait pas produit si elle n'avait pas été là.
Vous avez gardé un contact avec votre mère, avec votre frère?
Non. Non, non, non. Ma mère, je lui ai envoyé un faire-part pour la naissance de sa petite fille, c'est tout. Et mon frère, j'ai donné une fois, ça m'a suffi.
Il n'y aura plus de contact?
Je préfère pas. Je préfère pas, je veux pas mettre ma famille en danger ou en face à une situation de violence. C'est quelque chose que ma fille ne connaîtra pas. Ça, c'est hors de question et je la laisserai. Je veux pas risquer. Je préfère prévenir que guérir.
François Baudet a été officiellement inhumé en mars 2005 à Saint-Malo en présence de ses deux filles, Sandrine et Rosaine.